Pour la chronique environnement, aujourd'hui, je reçois Pierre-Étienne Drolet, qui est biologiste et coordonnateur de projet au COBALI. C'est un organisme qui veille à la protection des lacs et des cours d'eau du bassin versant de la Lièvre. Bonjour Pierre-Étienne.
Salut Carl.
Ça va bien?
Oui, toi?
Oui, bonne année. Ça fait drôle le 20 janvier, mais c'est la première fois qu'on se voit en 2026. Alors, je t'en souhaite une belle, avec plein de belles chroniques, évidemment. Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'air protégé et de nouvelles façons de faire en conservation.
Oui, parce qu'en 2025-2026, ça bouge beaucoup dans le domaine de la conservation des aires protégées. Il y a pas mal de démarches puis de projets en cours d'évaluation en ce moment dans les Laurentides, entre autres.
Pourquoi ça se développe en particulier ces dernières années?
Ça fait longtemps qu'on en parle des aires protégées, que ça en prendrait plus, mais disons qu'en 2022, il y a eu l'adoption du cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal. Il y avait eu un gros événement à Montréal, c'était dans le fond la COP 15 de la biodiversité.
Okay.
Puis le Québec était l'hôte du sommet, fait qu'il s'était doté là, évidemment de la politique, la politique cadre qui était ressortie de ça. Puis ça a donné le plan nature 2030. En gros, ce plan-là, ça prévoit la conservation de 30% du territoire québécois pour 2030, chiffrons. En faisant des nouvelles aires protégées, mais aussi en reconnaissant d'autres mesures de conservation efficaces. Ça, on a un petit acronyme, les AMCE pour les intimes, si vous voulez épater vos amis, là. Donc, des autres mesures de conservation efficaces. Et en fait, l'idée, c'est qu'il faut faire débloquer la conservation dans le sud du Québec, où on retrouve beaucoup de terres privées, puis aussi des territoires publics qui sont utilisés pour différents usages. Puis on essaie de créer des aires protégées, ou en tout cas de la conservation à travers tout ce beau monde-là.
Et pour ce qui est des aires protégées, je sais qu'il y en a plusieurs sortes, là. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu de ce qu'on a, disons, chez nous dans les Hautes-Laurentides?
Oui, les aires protégées, il y en a pour tous les goûts, puis c'est plus ou moins restrictif selon les sortes. On a plusieurs sortes là, d'aires protégées. Il y en a qui ont des territoires plus vastes, d'autres des territoires plus petits. Mais pour faire un petit portrait très rapide, là, mettons, il y a la réserve écologique, on pourrait dire que c'est la cloche de verre, là, qui est, normalement, c'est même pas libre d'accès au public. Là. C'est comme un territoire réservé pour la recherche. Il y a aussi le parc national qui est assez connu, ça c'est la CEPAC, exemple le parc national du Mont-Tremblant, tu sais, c'en est un. Il y a la réserve de biodiversité, qui ici on a trois parcs régionaux qui ont une réserve de biodiversité, là,
okay.
Montagne du Diable, Kémika, puis le Poisson Blanc. C'est un petit peu comme un parc national, mais un peu moins exigeant, c'est quand même des grands territoires protégés. Par contre, on a le droit de chasser, de faire différents usages que dans des parcs nationaux, on n'a pas le droit. Puis il y en a d'autres, l'écosystème forestier exceptionnel, il y a des refuges biologiques, qui sont des petits territoires à travers le territoire public où on laisse les arbres vieillir, disons, où il n'y a pas de foresterie. Puis on a des habitats fauniques ici qui sont quand même assez connus, comme les aires de confinement du cerf de Virginie, là, les fameux ravages de chevreuil. Fait que ça compte aussi, même si c'est juste pour une espèce en particulier, ça compte aussi dans les aires protégées. Puis on a aussi on a les réserves naturelles en milieu privé. Fait que ça, c'est des gens qui ont des terres qui peuvent faire des démarches pour les protéger auprès du gouvernement. Ce qui s'en vient, parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est créer des aires protégées qui n'ont pas nécessairement autant de statuts très contraignants pour augmenter un petit peu le nombre qu'on peut avoir. Donc là-dedans, ce qui s'en vient, il y a l'air protégé d'utilisation durable que le gouvernement du Québec le parle depuis un certain temps. Éventuellement, ça permettrait de protéger des territoires assez vastes, puis ça serait un peu moins restrictif que la réserve de biodiversité. Donc, pour avoir un peu de foresterie au travers de ça, en autant qu'on garde un peu le caractère de la forêt. Là,
OK. Donc, tout ça, c'est pour les aires protégées, mais pour atteindre le 30% de conservation, il y avait un deuxième volet prévu.
Oui. Oui, c'est ce qu'on, dans l'accord de Kunming-Montréal, c'est ce qu'on a appelé très poétiquement, je trouve, là, les fameuses autres mesures de conservation efficaces dont je parlais tantôt. Fait que ça, c'est assez nouveau. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est reconnaître plus officiellement là, que certains territoires sont déjà dans les faits comme protégés, même s'ils n'ont pas un statut légal comme tel. Dans le fond, on se dit on va faire un inventaire de ce qui se fait déjà en conservation, puis si ça correspond à des normes, on va entrer ces territoires-là dans le calcul. Bon, souvent, c'est des territoires qui ne sont pas nécessairement voués à de la conservation, mais par la bande, on arrive à le faire. Fait que c'est un peu... d'ailleurs, les organismes de bassin versant comme le Kobali, on essaie justement de faire la promotion de ça, puis que des organismes là, lèvent la main pour dire « Oui, nous autres, on pense qu'on est capable d'avoir une aire... une AMCE, là, donc les autres mesures de conservation efficaces. »
Donc, ça consiste en quoi, une AMCE?
Oui. Ben, dans le fond, ça prend une zone qui est géographiquement assez bien délimitée, qui est réglementée puis gérée de façon à obtenir des résultats qui sont positifs et durables à long terme là, pour la conservation. Fait qu'il faut qu'il y ait un intérêt raisonnable en termes de nature qu'il y a sur le territoire, de biodiversité. Une certaine superficie minimale. Ça prend aussi une intention de conserver ce territoire-là, soit à perpétuité ou à long terme. Pour un terrain privé, on parle d'à peu près 25 ans. Donc, c'est quand même à relativement long terme. Puis évidemment, il faut que les activités soient compatibles avec la conservation, évidemment.
Est-ce que tu as des exemples d'AMCE?
Oui, bien, ce qu'on pourrait avoir comme AMCE, ce serait des initiatives de conservation, disons, en milieu privé. Ça commence dans les Laurentides de plus en plus à se développer. C'est-à-dire qu'un propriétaire peut faire une entente, exemple, on voit ça, là, des ententes de servitude de conservation avec des organismes. Dans les Laurentides, il y a Éco-Corridor Laurentien, entre autres, qui est un organisme qui œuvre en conservation en milieu privé. C'est que dans le fond, le propriétaire dit « Mais moi, je mets une servitude sur mon terrain en faveur d'un organisme de conservation. » Là, à ce moment-là, il dit « Ben moi, je vais maintenir la forêt en place, je vais pas la déboiser, je vais pas développer mon terrain. » Autrement dit, ça va être pour de la conservation. Ça pourrait aussi, Carl, si tu penses, mettons, aux municipalités, là, tu sais, souvent, eux autres aussi ont des terrains, exemple des centres de plein air ou des, tu sais, des endroits que c'est plus pour le récréotourisme ou le plein air, mais qui pourraient rentrer, s'ils sont gérés de façon à maintenir la nature, ben, ça pourrait rentrer là, dans les autres mesures de conservation efficaces. En autant qu'évidemment, il y a comme un règlement ou un plan de gestion là, qui dit que oui, ces territoires-là sont protégés là, par le fait même.
Et mise à jour sur les aires protégées dans les Laurentides, il y a eu un appel de projet, je pense, hein, l'an dernier.
Oui, l'année passée, n'importe quel citoyen là, pouvait proposer une aire protégée. C'était jamais vu au Québec. Il y avait comme un appel à projet où les municipalités, les organismes, les citoyens pouvaient proposer des territoires pour devenir des aires protégées. Puis pour les Laurentides, ben c'est le Conseil régional de l'environnement des Laurentides qui est responsable un peu de faire le premier tri puis de voir une concertation au niveau régional. Et ben le Kobali, dans le fond, on siège sur ce comité-là. Là. C'est moi qui est là-dessus. Donc, on voit passer beaucoup de projets. C'est super intéressant. Il y a beaucoup de municipalités, d'organismes qui ont déposé des projets, entre autres dans la MRC d'Antoine Labelle. Fait que ça va être vraiment intéressant là, au cours de la prochaine année de voir ces projets-là cheminer. Puis évidemment, en bout de ligne, l'année prochaine, ça va être le gouvernement du Québec qui va faire la sélection finale, là, on s'en doute. Mais pour l'instant, au niveau régional, il y a une concertation là-dessus.
Pierre-Étienne Drolet, biologiste et coordonnateur de projet au Kobali. Merci beaucoup pour la chronique d'aujourd'hui. On se retrouve dans quelques semaines.
Ça fait plaisir. À la prochaine.
À bientôt. Excellent.